France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique comme chaque samedi sur France Info avec Jannick Halimi. Bonjour Jannick.
Bonjour Mathéo.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Notre invité du jour, c'est Clémentine Nautin. Bonjour.
Bonjour.
Députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Nouvel épisode à partir de ce soir et jusqu'à lundi de cette grève alternée à la SNCF. Hier, le PDG Guillaume Pepy a voulu faire un geste commercial vis-à-vis des usagers avec des 3 millions de billets à moins de 40 euros ou encore l'abonnement TER à moitié pris pour le mois de juin. Et sur France Info hier, vous allez réagir dans un instant, il a eu ce message envers les grévistes. On l'écoute.
Vous savez, je ne pense pas que les cheminots aient la tentation d'assumer de perturber les vacances des Français. Franchement, les Français nous en voudraient très longtemps d'avoir perturbé leurs vacances d'été. Donc moi, je n'y crois pas. Les cheminots sont des gens responsables. Et puis encore une fois, début juin, la loi de la République aura été adoptée. Ça signifie donc que la réforme sera faite au Parlement.
Clémentine Autain, une réaction ?
Oui, les cheminots sont des personnes responsables. Mmh. Et précisément parce qu'ils sont responsables, ceux qui sont aujourd'hui en grève se battent pour défendre notre système ferroviaire. Et ce n'est pas simplement le statut des cheminots qui est en cause, c'est la question de l'avenir du train dans notre pays. Parce que le risque du pacte ferroviaire tel que présenté par le gouvernement, c'est qu'ensuite nous ayons un système qui fonctionne moins bien, avec des coûts prohibitifs, et donc en fait qu'il y ait un système ferroviaire détérioré. Mmh. Donc c'est pour cela que se battent les grévistes. Et Monsieur Pepy ferait bien attention, aurait intérêt à se méfier, parce que ce qui s'est passé à Air France est assez intéressant. Vous avez vous-même, sans doute, des journalistes, en tout cas un certain nombre, des éditorialistes, nous ont expliqué que puisqu'il y avait peu de grévistes, c'était bien le signe que les salariés d'Air France n'étaient pas d'accord avec les choix de la direction. Mmh. Et quand on leur a posé la question, contre toute attente, on s'est rendu compte qu'il y avait une adhésion des salariés d'Air France aux revendications.
Sauf que c'était organisé par la direction. Dans le cas de la SNCF, la direction dit que ça n'a pas de valeur.
Monsieur Pepy devrait peut-être y réfléchir. Et s'il organisait, s'il demandait aux salariés, ou même si on demandait aux Français s'ils sont d'accord avec ce pacte de libéralisation du système ferroviaire français, est-ce que vous croyez que les Français seraient d'accord? Est-ce que vous croyez que les salariés, globalement, même ceux qui ne sont pas en grève, seraient d'accord? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, je ne le crois d'autant pas que quand la question leur a été posée en 2005, parce que c'était dans le traité constitutionnel européen, les Français ont rejeté cette logique de libéralisation qui ne marche pas. On le sait depuis la Grande-Bretagne, et on sait en revanche qu'en Suisse, où c'est un système 100% public, eh bien, le train marche mieux et les Suisses prennent plus le train que les Français.
Clémentine Nautin, revenons à la France et puis à la réforme de la SNCF. Est-ce que vous estimez que la démarche de la CGT est justifiée dans la mesure où elle, ainsi que Sud, refuse de se rendre à la table des négociations avec Madame Borne, en tout cas? Vous considérez que c'est une démarche constructive par rapport à la CFDT, par exemple, qui, elle, s'y rend, ainsi que l'UNSA?
Écoutez, moi, je ne suis pas syndicaliste, donc les stratégies syndicales sont décidées par les syndicats. J'ai observé que la CGT, notamment, a proposé un vote-action. Qui est aussi une méthode pour sonder les salariés. Alors,
qui est une sorte de référendum d'entreprise
puisque la direction,
que vous approuvez.
Puisque la direction ne veut pas le faire, le syndicat dit « on va le faire ». Qu'il y ait des syndicats, dont la CGT et Sud, qui disent « écoutez, on ne peut plus discuter avec cette direction, on ne peut pas discuter avec ce gouvernement et nous rejetons le pacte ferroviaire », nous, à l'Assemblée nationale, en tout cas, nous étions pour un rejet. Non pas pour une discussion, mais pour un rejet. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le cas
C'est évidemment
la grande question, mais je veux juste vous interpeller sur le fait qu'un gouvernement qui estime que la seule légitimité dans ce pays est la légitimité issue une fois pour toutes des urnes est un vrai problème démocratique.
Ah bon, comment ça? Alors là, c'est quand même très grave. Là, vous remettez en cause une fois de plus, à travers le problème de la SNCF, la légitimité d'un pouvoir quel qu'il soit, sorti des urnes démocratiquement.
Vous pensez sérieusement que la démocratie s'arrête au vote? Sérieusement, c'est votre conception de la démocratie? Vous pensez que ça s'arrête au vote?
Je vous pose une vraie question.
Quand il y a des mobilisations dans le pays, et c'est vrai depuis très longtemps, les gouvernements, même s'ils ont eu en effet une légitimité issue du suffrage, ne doivent-ils pas écouter ce qui se passe dans le pays au fur et à mesure?
C'est ce que le gouvernement tente de faire. Maintenant, quand vous remettez en cause la légitimité d'un pouvoir sorti des urnes, c'est quand même très très grave.
Je ne remets pas en cause, je dis que ce n'est pas la seule légitimité démocratique. Et j'en ai ras-le-bol de ce gouvernement et des députés de La République En Marche, voire des ministres, qui nous expliquent que parce qu'il y a eu un vote dans des conditions qui étaient aussi celui du rejet de l'extrême droite, eh bien, tout est dit, tout est terminé, plus rien n'est à discuter. Et on vote les lois les unes après les autres en se moquant éperdument de la vie qui s'exprime par des mobilisations, par des critiques sociales, par des critiques intellectuelles sur toute une série de sujets.
On va revenir dans un instant sur les rapports entre la France insoumise et la majorité, mais pour en revenir à ce qui s'est passé à Air France, la direction propose un accord salarial. Il est rejeté par un grand nombre de salariés. Le président qui avait mis son poste en jeu, Jean-Marc Janaillac, s'en va. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait? Est-ce que le fait de faire voter les salariés améliore le quotidien et de la situation du groupe? Pas forcément.
Ça dépend de ce que fera la prochaine direction. Mmh. Il va y avoir un nouveau directeur. Est-ce qu'il va décider enfin d'écouter les salariés ou est-ce qu'il va mener la même politique que celle qui était menée par M. Janaillac? C'est quand même ça la question.
Vous pensez que l'État doit se désengager d'Air France et de la SNCF ou au contraire renforcer sa présence?
Non, je pense que l'État doit renforcer sa présence. Globalement, je pense que la stratégie industrielle de l'État qui consiste à sans cesse se déposséder de leviers pour mener des politiques qui concernent la transition énergétique, qui concernent plein de thèmes décisifs pour l'avenir de la France, est un vrai problème aujourd'hui dans notre pays. Et je voudrais vraiment revenir parce que voyez la question de la légitimité. Quand le gouvernement décide de donner 5 milliards par le biais de la réforme de l'ISF, a-t-il une légitimité populaire pour le faire? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et donc, la question de la légitimité démocratique...
Ça avait été annoncé dans le programme.
Mais pas la réforme de l'ISF, c'est pas vrai. La taxe flat, les 10 milliards au total, l'exit flat maintenant, puisque ça on n'arrête pas de distribuer de l'argent aux plus riches, c'est quand même la réalité de ce gouvernement. Oui, l'exit tax. La taxe flat, l'exit tax, la réforme de l'ISF, bref, au total, ce sont des milliards qui sont redistribués aux plus riches. Et pendant ce temps-là, moi j'étais hier à Interlogement en Seine-Saint-Denis, où on nous explique qu'il y a moins 9% de budget qui est exigé aux associations qui font vivre l'hébergement d'urgence. Allez. C'est-à-dire que l'État va mettre des gens à la rue pendant qu'il donne des milliards aux plus riches. Eh bien, cette situation, je ne crois pas qu'elle ait légitimité populaire. C'est pourquoi j'interroge notre système
démocratique. On fait une petite pause, Clémentine Autain. On revient tout de suite justement sur vos rapports et sur les suites de la fête à Macron, sur les rapports entre les Insoumis et le gouvernement. 8h40, l'info avec David Debas.
Et tout d'abord, cette nouvelle séance de grève à la SNCF, la 9e du genre. Les premières perturbations sont à attendre dès ce soir, 20h. On connaîtra dans la journée les prévisions de trafic. On connaîtra également dans la journée le nom du nouveau président de la Catalogne. Le Parlement se penche sur son investiture. Assez peu de suspense puisque Carles Puigdemont, actuellement en Allemagne, a désigné hier son successeur. Il s'agit d'un certain Joachim Tora, indépendantiste convaincu mais novice en politique. De Pékin à Moscou, en passant par Bruxelles, le chef de la diplomatie iranienne va multiplier les déplacements ces prochains jours. Il entame une tournée destinée à tenter de sauver ce qui peut encore l'être de l'accord sur le nucléaire. Il sera notamment mardi à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques. Et puis près de 200 millions de téléspectateurs, des groupes de métal qui côtoient des folklores traditionnels, du kitsch et des paillettes. 63e concours de l'Eurovision ce soir depuis Lisbonne. Les chances de la France reposent sur les épaules du duo Madame Monsieur.
France Info. 8h30 politique sur France Info avec notre invité Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Aujourd'hui en France, c'est à vous, Jeannick.
Clémentine Autain, la semaine dernière, la France Insoumise et notamment François Ruffin donc organisé cette fameuse fête à Macron par laquelle vous essayez une fois de plus de démontrer la possibilité, voire la réalité, de la convergence des luttes, aussi bien sociales d'ailleurs que politiques. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des dénominateur commun entre les cheminots dont beaucoup ne perçoivent que 2000 euros net et des pilotes d'Air France qui gagnent 7 fois, voire 8, enfin 7 fois plus que ce cheminot dont je parlais au début. Comment faites-vous pour faire le lien et proposer des alternatives crédibles aux uns et aux autres?
C'est exactement ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire une convergence pas simplement des luttes mais des causes. Cette convergence des causes, elle suppose d'avoir une vision alternative du chemin que la France devrait emprunter. Aujourd'hui,
on poursuit un
changement de société.
Mais ça vous évite pas justement d'apporter des réponses, des contre-propositions concrètes,
vous savez qu'on n'arrête pas,
qu'on a du mal à voir émerger.
Vous avez du mal à donner l'impression
d'élargir votre critique à la légitimité de l'élection et à une réforme globale de la société.
Non, c'est faux. Si vous nous écoutiez au Parlement en particulier...
Ah, je vous écoute.
Nous passons notre temps à faire des contre-propositions sur tous les sujets. Absolument sur tous les sujets. Quand nous disons par exemple qu'il faut mettre le paquet sur l'évasion fiscale, parce qu'il y a 60 à 80 milliards d'euros chaque année qui partent en fumée, et qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de lutter contre cette évasion fiscale, c'est pas une proposition.
Mais quel est
ça
le lien entre les cheminots et les pilotes d'Air France ?
Eh ben, le lien entre les deux, c'est qu'ils se battent pour que on n'ait pas sans arrêt des entreprises qui soient au service du capital et non pas au service de l'intérêt de ceux qui y travaillent.
Mais la SNCF,
ou de
c'est
ceux
une entreprise
qui...
un établissement public.
Oui, pour combien de temps ?
Bon, je sais pas, mais enfin, au service voilà. du capital, il y a quand même mieux
comme exemple. Ils sont promis que ça reste très public.
Comme vous dites, eh bien, ce pourquoi les cheminots se battent, c'est justement contre la privatisation possible et prévue de la SNCF. Et Air France se bat contre quoi ? Contre le fait qu'on est une entreprise dans laquelle les salariés n'ont pas leur mot et où vous avez une direction qui s'est augmentée de 46% en 2016 et qui aujourd'hui explique que le gel des salaires est normal et qu'on ne doit pas partager les bénéfices de l'entreprise. Donc, il y a bien un lien entre les deux, si
Écoutez...
vous voulez. C'est d'abord le sens de ce qu'on produit. C'est aussi la voix de ceux qui travaillent dans les choix de l'entreprise qui n'est pas entendue, ni à Air France, ni à la SNCF, entendez-le bien, et c'est ensuite finalement le sens de la société, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille au profit d'une poignée de riches qui ne cessent de s'engraisser ou est-ce qu'on décide de faire sens commun et que justement les salariés...
Attention, sens commun c'est connoté.
Ah pardon, le sens du collectif, le sens du
et donc
commun.
Vous nationalisez Air France et vous laissez la SNCF dans
son état. C'est pas qu'un
problème,
je vais vous dire, non, pourquoi vous pensez que c'est laissé
en
l'état ?
Je vous pose la question.
Non, on n'est pas du tout pour que la société ne bouge pas, on est au contraire pour qu'elle bouge profondément, mais qu'elle change de sens. Le sens aujourd'hui de la société, elle est sans cesse de détricoter tout ce qui permet de faire lien, tout ce qui permet d'améliorer les conditions.
Clémentine Autain, je
vous
interromps une seconde.
Nous voulons mettre en mouvement la société au service des biens communs, et j'insiste sur ce point. Nous voulons que les salariés aient voix au chapitre dans les entreprises, et nous voulons que les dividendes des actionnaires cessent de grossir, mais qu'au contraire, les conditions de vie du grand nombre soient améliorées. Ça s'appelle le partage des richesses et le partage des pouvoirs. C'est ce que nous défendons.
Vous parliez tout à l'heure de la légitimité du gouvernement et de l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a lui-même réagi à la légitimité de votre mobilisation du week-end dernier et on l'a entendu par la voix de du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Je vous propose de réagir également, on l'écoute.
Il a rappelé que, au fond, le sous-jacent de cette mobilisation était un discours qui voulait rejouer l'élection et refaire dans la rue ce qui avait été perdu dans les urnes, avec le souhait d'une partie de l'extrême-gauche, non pas... de défendre la convergence des luttes, mais la confusion de celles-ci.
Donc c'est une manière de dire quoi en fait ? Vous êtes bien gentil à manifester, mais c'est nous qui sommes élus ? Mais
d'abord, c'est une négation du rôle des oppositions sociales ou politiques. Si on nous dit, et on revient au débat sur qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la légitimité démocratique, et est-ce que la démocratie s'arrête au moment où on vote, et après circuler, il n'y a rien à voir pendant 5 ans, parce que vous voyez, on a élu et c'est terminé. Ça, c'est une conception de la démocratie qui est terriblement autoritaire. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le gouvernement. Par ailleurs, vous entendez dans son discours, toute une série de messages qui visent à nous décrédibiliser. L'extrême gauche, sommes-nous l'extrême gauche ? Il existe une extrême gauche dans le pays, vous le savez. Lutte ouvrière, le NPA, et elle a le droit d'être respectée. Et sans arrêt, on nous dit « vous êtes l'extrême gauche » pour nous mettre dans un petit précaré en expliquant que nous serions portions congrues et particulièrement radicalisées, c'est vrai. Nous sommes radicalisés au sens de prendre à la racine les problèmes. Nous assumons une forme de radicalité.
Vous avez des discours,
on voit bien qu'ils
vous distinguez. Vous distinguez d'eux, mais est-ce que vous pouvez converger avec eux ? C'est toute la question.
Converger avec qui ?
Avec l'extrême gauche que vous venez de mentionner. Ou avec le PC, avec qui vous appelez au dialogue, par exemple.
Je vous signale qu'Olivier Besancenot était dans la manifestation du 5 mai. Il y avait également Benoît Hamon, il y avait Pierre Laurent, et il y avait aussi, et je dirais presque surtout, toute une série de personnes qui sont des militants associatifs, très engagés, qui sont des syndicalistes, qui sont des sympathisants d'une mouvance politique large, qui n'a pas envie de voir Emmanuel Macron avoir tout pouvoir et qui conteste cette logique qui est une logique monarchique sur le plan de la démocratie et qui est une logique économique qui dessert la majorité de la population.
On va juste déplacer un petit peu le sujet, mais à peine à propos des universités. On sait que la France insoumise veut s'installer, si je puis dire, dans les universités. voilà ce que faisait le Parti Socialiste et Jeunesse Socialiste à une époque.
Je dirais pas ça comme ça.
Je schématise un petit peu. Éric Coquerel a été vu en train de soutenir le blocage des étudiants de Nanterre. Est-ce que vous pensez que c'est la place d'un élu de la nation que de bloquer avec certains étudiants des universités au moment des élections, des examens?
Il a même été critiqué par certains étudiants sur les réseaux sociaux qui ont dit « nous, on voulait passer nos examens, on peut pas ».
Oui, mais nous menons une bataille politique contre la sélection à l'université. Nous la menons au Parlement et nous la menons auprès des étudiants qui se battent contre cette sélection. Voilà, c'est ça.
Fallait-il qu'Éric Coquerel aille sur les lieux au moment des examens?
Vous auriez pu me poser une autre question. Comment est-il possible qu'Éric Coquerel ait été gazé par des CRS? Vous auriez pu me poser cette question. Ça interpelle quand même. Je crois que le gouvernement aurait pu condamner ce geste et dire que on a le droit en démocratie, en effet, de contester la loi qui ne nous convient pas, qui est en cours de discussion et en cours d'adoption.
Mais est-ce qu'on a le droit d'empêcher des gens qui veulent passer leurs examens de le faire? Parce que c'est ça, au final, qui peut se passer aussi.
Vous savez, il y a plein de choses qui ont été faites dans l'histoire, comme par exemple Notre-Dame-des-Landes, vous voyez. J'ai entendu beaucoup de choses à Notre-Dame-des-Landes pendant toute une série d'années en disant ça empêche, ça empêche. Et au final, cette bataille, qui avait un sens, elle a gagné et le gouvernement a cessé ce projet. Donc les formes, et je vais vous dire, les formes, elles se radicalisent d'autant plus que des formes démocratiques classiques ne sont pas entendues par les gouvernements successistes. Entendez bien ce problème. C'est-à-dire que quand vous avez des mobilisations de masse, comme on l'a vu au moment de la loi El Khomri ou d'autres, j'englobe même en amont d'Emmanuel Macron, qui pourtant a radicalisé lui ces formes autoritaires de rapport à la mobilisation. Quand vous n'écoutez pas des formes qui sont des formes plus pacifiques, etc., moi je vous dis attention. Je dis au gouvernement, attention, il prend des risques qui sont des risques dangereux pour la démocratie. Mais c'est visiblement pas du tout le problème d'Emmanuel Macron qui se moule dans un pouvoir monarchique avec beaucoup de délectation, malheureusement.
Clémentine Autain, on a quand même l'impression que la mobilisation au niveau des grèves s'affaiblit. Est-ce que vous pensez, vous souhaitez peut-être une nouvelle cristallisation des luttes ou au contraire, dans quelques semaines, on verra Jean-Luc Mélenchon dire une fois de plus « Macron a le point ». Comment vous analysez la situation aujourd'hui?
D'abord, il y a une réussite formidable de la fête à Macron. C'était une mobilisation qui était nombreuse, mais qui était aussi déterminée et joyeuse. Pour l'avenir, il y a un nouveau rendez-vous qui est le 26 mai et qui élargit le cadre de rassemblement puisque vous aurez des forces syndicales en nombre également présentes. Donc je souhaite que le 26 mai...
La CGT s'y rendra?
Oui.
Vous êtes sûr?
La CGT parlera au nom de la CGT, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les collectifs d'organisation, il y a aujourd'hui des syndicats qui prennent toute leur part. Donc je laisse à chacun s'exprimer pour son organisation, mais ce que je souhaite, moi, et ce que nous recherchons, c'est en effet à constituer un front social, politique, citoyen, qui voit grandir de manifestation en manifestation la détermination et encore une fois aussi quelque chose de l'ordre de l'espérance. Quand il y a de la joie dans la manifestation, c'est aussi qu'il y a de l'espérance, qu'on n'est pas simplement là pour s'opposer à ce que fait le gouvernement, mais pour tracer un chemin qui donne de l'espoir qu'on peut faire autrement. Et oui, on peut faire autrement.
Allez, 8h51, l'info sur France Info avec David Doba.
Des reblochons contaminés par des bactéries Escherichia coli. Les autorités sanitaires demandent à Leclerc de rappeler des fromages de la marque Nos Régions ont du talent. Ils sont responsables de l'intoxication de 7 enfants en bas âge, l'un d'eux d'ailleurs toujours hospitalisé. Élection cruciale en Irak, les bureaux de vote sont ouverts ce matin à 6h. Plus de 24 millions d'électeurs ont appelé à se prononcer pour renouveler le Parlement. 7000 candidats, 329 fauteuils disponibles. Premier scrutin organisé depuis la victoire de Bagdad sur le groupe État islamique. Un avenir de paix et de prospérité, c'est ce que promet Mike Pompeo à la Corée du Nord si elle accepte de renoncer rapidement à ses armes nucléaires. Le secrétaire d'État américain reconnaît toutefois que les deux parties ne sont pas forcément d'accord sur la signification des termes utilisés. Et puis, suite de la 37e journée de Ligue 1, 9 matchs organisés en ce samedi, notamment Strasbourg-Lyon, Monaco-Saint-Etienne ou encore PSG contre Rennes. Hier, Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul, 3 buts partout. C'était face à Guingamp, une contre-performance qui réduit du coup les chances des Olympiens d'accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine.
France Info. 8h30 politique sur France Info, toujours en compagnie de Gianni Calimi et notre invité du jour, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles sera examiné à partir de lundi à l'Assemblée, après être passé en commission des lois. On va en parler ensemble. Écoutez ce qu'en disait cette semaine chez nos confrères d'Europe 1, la rapporteure La République En Marche du projet de loi, Alexandra Louis.
Je ne laisserai personne dire que ce texte n'avance pas. Moi, justement, j'ai rencontré des associations. Il y a des efforts qui sont soulignés parce que nous protégeons mieux les mineurs. Tout n'est pas dans cette loi, mais tout ne relève pas toujours de la loi. Mais pour ce qui relève de la loi pénale, nous avons comblé des vides juridiques. Donc, c'est un texte qui va plus loin encore que ce qui était prévu initialement.
Alors, voilà ce qu'en dit la majorité. Clémentine Autain, vous avez estimé cette semaine, je cite, que la montagne avait accouché d'une vraiment toute petite souris. En gros, après MeToo, après Balance ton porc, il y a eu beaucoup de com' du gouvernement pour, au final, pas grand-chose.
Pour au final une loi assez misérable, il faut dire les choses, c'est une loi qui comporte 4 petits articles, qui n'est absolument pas une loi cadre, qui était le minimum de ce qu'on devait attendre après le mouvement MeToo. Je voudrais rappeler qu'en Espagne, en 2004, donc vous voyez, bien avant le déferlement et cette libération de la parole que l'on a connue, pas simplement en France, mais même à l'échelle internationale, qui est quand même une rupture historique, en 2004, l'Espagne était capable de faire une loi cadre pour dégager des moyens concrets, et en effet changer dans le droit pénal des choses, mais aussi déployer des moyens concrets, parce que si on ne déploie pas des moyens, il ne s'agit pas simplement d'agir sur les sanctions. Si vous avez seulement 9% des femmes qui portent plainte, ce qui est la situation française, qu'ensuite vous n'avez qu'1% des viols qui sont condamnés, vous voyez bien que le problème, c'est tout le maillage d'accompagnement. Et là, il n'y a strictement rien. Et le budget de la secrétaire aux droits des femmes, Madame Schiappa, qui n'a pas de ministère, qui au fond n'a pas un copec pour faire avancer des projets contre les violences, c'est 0,0066% du budget de l'État. Okay. En Espagne, oui, il y a 0,54 euros par personne, par habitant, mais qui est dépensé pour les violences faites aux femmes.
Sur
en France, c'est 0,33.
Clémentine Autain, sur les principes, alors on a bien compris qu'il manquerait, selon vous, des budgets, mais sur les principes, la loi quand même améliore la situation.
Pas
sur la présomption de culpabilité en cas de relation avec un mineur en dessous de 15 ans, sur le rallongement du délai de prescription,
alors,
de 20 à 30 ans.
Il y a un point positif qui est l'article 1, qui est en effet le délai de prescription, qui est étendu de 10 ans pour les personnes qui ont été violées avant 18 ans, donc les mineurs. Mais en revanche, la présomption de non-consentement pour les mineurs, et on se souvient de l'affaire de Pontoise qui nous a toutes et tous émus, et j'étais intervenue au Parlement, elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans et la justice n'a pas pu qualifier
le
viol.
La loi est censée apporter une solution.
Elle est censée, la loi, telle qu'elle nous est proposée et telle qu'elle sera débattue dès lundi.
Mais qu'est-ce que vous critiquez dans cette mesure ?
Et je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas dans la loi de présomption de non-consentement. Ce point a été refusé. Il y a un article extrêmement mal rédigé.
Parce qu'il y avait un risque que ce soit anticonstitutionnel, c'est ce qui a été expliqué.
Alors,
non, mais j'explique le contexte.
Vous savez qu'on peut même changer la Constitution en France.
Et
c'est sur irréfragable. C'est sur irréfragable que le Conseil constitutionnel avait dit qu'il ne validerait pas. En revanche, sur une sorte d'inversion de la charge de la preuve, pour un mineur de moins de 13 ans, on aurait pu faire avancer la loi. Ça n'a pas été
Clémentine
le choix de ce gouvernement.
Je ne vous contredisais pas, j'expliquais simplement un contexte. Vous déplorez donc un risque de correctionnalisation accrue des viols, puisque la peine pour atteinte sexuelle, si le viol n'est pas établi, a été doublée à 10 ans. Et donc, les notions de contrainte et de consentement sont toujours laissées à l'interprétation des magistrats. C'est bien ça.
Ce que je redoute, en effet, c'est que l'introduction d'une nouvelle infraction d'atteinte sexuelle avec pénétration, ce qui normalement qualifie le viol, va aboutir à une correctionnalisation accrue du viol. Or, nous nous battons depuis quand même longtemps pour que le viol soit reconnu comme un crime. Et ce que je demande à ce gouvernement, c'est qu'il mette des moyens. Ne riez pas sur les moyens. Si on ne forme pas les policiers, si on ne forme pas les magistrats, si on ne s'occupe pas de l'éducation à l'école contre les stéréotypes sexistes, si on ne donne pas aux associations les moyens de vivre, vous vous rendez compte que l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, a dû arrêter sa permanence téléphonique parce qu'elle n'avait plus les moyens d'assurer, parce qu'il y avait trop d'appels suite au déferlement MeToo. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui.
Est-ce que finalement vous la voterez, cette loi?
Je ne sais pas. Non, nous ne voterons pas favorablement pour cette loi.
Est-ce que nous nous abstiendrons?
Est-ce que nous voterons contre? Voyez, on en est là. Jamais je n'avais pensé, je vous le dis vraiment droit dans les yeux, jamais je n'avais pensé ne pas voter au Parlement une loi contre les violences faites aux femmes. J'ai pensé que ce gouvernement serait un minimum à hauteur de ce qui s'est passé dans notre pays. Et je suis au regret de constater...
Ça ne peut pas passer par des amendements, ça, c'est trop tard.
...que cette loi... Non, parce qu'il manque tout un volet, et c'est une loi qui vise simplement les sanctions. Ce n'est pas une loi 4, ce qui est quand même pour nous un problème sacrément majeur, et qu'en plus, 2 articles sur 4 risquent d'aboutir à une déqualification du viol, mais aussi du harcèlement. Donc, bon, vous voyez, c'est pas franchement la loi dont on avait rêvé, et même sans rêver, qu'il aurait fallu pour ne pas insulter les femmes qui ont osé parler et qui ont libéré formidablement la parole dans notre pays.
En tout cas, le projet de loi sera donc examiné à partir de lundi à l'Assemblée. Merci Clémentine Autain.
Merci à vous.
D'être venue nous voir ce matin sur France Info. Merci Yannick Halimi. On vous retrouve évidemment dans les colonnes du Parisien. Excellent journal. Bonne journée à tous sur France Info.